Bonjour encore à tous ceux que je n'ai pas salués. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu d'une autre manière encore. Et j'y ai été amené déjà il y a quelques semaines en pensant à ces incendies du sud-ouest. Une catastrophe qui fera parler longuement et qui a déjà fait beaucoup parler. Mais aussi une redécouverte pour plusieurs. Laquelle ? Beaucoup de personnes ont redécouvert la solidarité et ont été surpris d'être tout à coup aidés, secourus, assistés, nourris par des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est tout à l'opposé du constat qui avait été fait il y a un an. Le premier baromètre du civisme a été présenté le 25 juin au maire de France. Voilà ce constat. 86% des Français jugent que la société française se dirige vers plus de volonté de s'enrichir et de réussir individuellement. 11% de plus en 27 ans. De même, 84% des personnes, dont une grande majorité de moins de 25 ans, pensent que nous allons vers un repli individualiste. Toujours plus individualiste, plus indépendant, plus centré sur nous-mêmes. La volonté d'être libre de ses choix, de ses convictions, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Dans la Bible, le livre de Juges contient une rengaine sur laquelle il se termine. Et savez-vous laquelle elle est ? En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous pouvons, et je crois que nous devons nous aussi nous poser la question, si nous ne sommes pas attirés par l'individualisme dans notre vie de chrétien. Nous faisons partie de notre génération et elle nous influence. Ne sommes-nous pas tentés de le vivre, nous aussi, sans penser à mal ? En effet, depuis le Covid, bien des chrétiens disent « Je peux suivre le culte sur Internet et même le réécouter. Les sites me donnent réponse à mes questions. » Alors pourquoi me joindre à une église locale ? Je suis bien plus tranquille ainsi chez moi, non ? Au moment du Covid, cette possibilité de se joindre par Internet était une grâce. Mais aujourd'hui, et pour aujourd'hui, donc, se pose cette question, je crois, est-ce qu'on peut vivre la foi en individualiste, oui ou non ? C'est une question qui n'est pas nouvelle. Quand nous lisons comment est née l'Église, nous constatons qu'eux ne pensaient pas à l'individualisme. Et tu peux projeter le premier texte, et si quelques-uns veulent lire ce texte, à tour de rôle. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. En y réfléchissant, j'ai été saisi de voir combien de fois le Nouveau Testament dans son ensemble par la bouche du Seigneur, par l'écrit des apôtres, nous appelle à l'unité, à une vie en commun et non pas une vie isolée, une vie individuelle. Et j'aimerais donc reprendre avec vous quelques-unes de ces injonctions ce matin pour y confronter nos convictions et nos façons de vivre. Ces réflexions, je les fais tourner autour de trois points. Le projet de Dieu, c'est vivre la foi en Église. Nous avons toutes sortes de réticences et de raisons à dire que nous ne pouvons pas vivre autrement que tout seul. Et puis, il y a un troisième point que j'aimerais aborder qui nous encourage à progresser aujourd'hui vers la maturité. Mais avant de continuer, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu nous appelles, parce que toi, tu nous as appelés vers toi. Toi, tu nous as appelés à te suivre, tu nous as appelés à vivre selon ta volonté. Nous l'avons déjà rappelé ce matin. Nous te bénissons pour tous ces encouragements. Nous te bénissons aussi pour tes exhortations. Et nous voulons demander que ce matin, tu parles à chacun de nous au fond de son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Le projet de Dieu, c'est vivre la foi en Église. Quelques questions se posent d'emblée. Est-ce que je peux vivre ma foi en individualiste? Pourquoi me joindre à une Église locale? Quel est le projet de Dieu? Quelle est la volonté du Seigneur Jésus? Et bien sûr, cette question s'adresse d'abord d'une autre manière à nous. C'est est-ce que je suis disciple du Seigneur? Est-ce que je veux vivre avec lui? En suis-je? Si oui, eh bien nous avons besoin d'écouter ce que dit sa parole. Sinon, nous avons peut-être besoin d'abord de nous poser la question, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas le Seigneur? J'ai besoin de connaître sa volonté et de m'y conformer. Quand il est dit que le Seigneur a comme projet pour nous de... Tu es un peu en avance, là, je crois. A pour nous ce projet, la Bible nous le présente sous différentes formes, sous toutes sortes de différentes images. Et le projet du Seigneur, d'abord, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16, « Je construirai, je bâtirai mon Église. » Il a dit aussi, quand il s'est adressé à la foule, « Je suis le bon berger. » L'Église est considérée comme un ensemble, comme un troupeau. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul emploie plusieurs images différentes. Nous sommes la famille de Dieu, dont Dieu est le Père. Nous sommes un peuple saint, un temple saint, un lieu où on adore Dieu ensemble. Nous sommes un royaume, nous dit l'apôtre Pierre. Et Jésus lui, et l'apôtre Paul, encore dans 1 Corinthiens 12, va dire que nous sommes un corps dont lui, il est la tête. On y reviendra dans le détail tout à l'heure. Qu'impliquent déjà toutes ces images? Toutes ces images, dans toutes ces images, il est question de vie collective, de vie où on est un, où on n'est pas uniforme, mais tous ensemble, diversement. L'Église est un groupe organisé avec un objectif commun, un organisme vivant. Ces caractéristiques concernent tant l'Église dans sa globalité que dans la vie locale d'une cité. Quand Paul écrit, il écrit aux chrétiens de Corinthe, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, il écrit aux chrétiens de Laodicée. Il va dire que Jésus est le chef qui conduit et dirige. Dans 1 Corinthiens 12 encore, où nous le verrons tout de suite, il dit qu'il y a un seul et même esprit qui est à l'œuvre au milieu des siens. Et cette expression « un seul et même esprit » revient dans 1 Corinthiens 12 six fois d'affilée. Voici quelques aspects du projet de Dieu pour la vie des siens. Quel formidable projet! Nous en mesurons si peu les dimensions et les implications dans notre vie. Et alors viennent c'est cette image du corps que, sur laquelle j'aimerais revenir, et nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, la deuxième partie du chapitre. Et là aussi, on peut lire, alors il y a 3 ou 4 diapos si plusieurs veulent lire, et merci d'avance.
L'organe forme un tout, pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, on leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. De même, tous ceux qui sont unis.
Il fait que nous soyons juifs, grecs, esclaves, pris, dans toutes les diversités d'un seul esprit, formé un seul corps. Le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et le plus que vous êtes, pourquoi ne vous pas une main, n'appartient pas au corps. Le plus que vous n'appartient pas partie du corps pour autant.
Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne serait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, il serait oui. S'il était tout entier, oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête, ni au pied, je n'ai pas besoin de vous. Quatre parties du corps qui paraissent être faibles.
Celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, l'organe avait moins de sang, était un bon. Que ceux qui sont destinés n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en ont, afin qu'il n'y ait pas de distinction dans le corps. Tous les membres prennent également soin. Un monde, tous les membres souffrent de vie. Un monde, tous les membres se réjouissent.
Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Dieu l'a établi comme premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite le fait des miracles, des dons, des guérisons. Des aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous sont-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous sont-ils en langue? Aspirez aux dons des meilleurs.
Jusque-là. Merci. Et j'aimerais souligner en particulier le verset 27 qui dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Pourquoi Paul insiste-t-il tellement? Les Corinthiens avaient de la peine à vivre dans cette réalité. Il commence sa lettre en disant entre autres « Il faut cependant, frère, que je vous adresse une recommandation instante, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le fais. » Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas la division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Moi je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, et encore, et moi pour Christ. Les Corinthiens avait de la peine à vivre l'unité, et c'est le premier point que j'aimerais souligner. Le corps souligne plus que tout l'unité. Il appelle à vivre ensemble et en pleine harmonie. Pas de division, pas d'isolement, pas de solitude. Une unité de pensée et de conviction en est la base. Il n'y a pas de place dans le corps pour des factions. Et au milieu de l'Église, il n'est pas question de faction, il n'est pas question de division. Ici, Il y avait Paul qui était suivi par certains et admiré. Il y avait Apollos qui était admiré par d'autres. Et puis d'autres qui disaient, mais vous ne comprenez rien, c'est Christ qu'il faut admirer. Le chrétien n'a pas à vivre en solitaire. Comprenons qu'il n'est pas question de division de clans dans une église. La deuxième chose qui est fortement à souligner, c'est que Jésus-Christ est la tête. Vous êtes le corps de Christ. Avant tout, cette image soulignait que la direction du corps de l'église n'appartient pas à tel ou tel, à l'un d'entre nous, à l'un d'entre ceux qui se réunissent ailleurs. Jésus est le chef. Dieu est souverain. Dieu a disposé, non pas les hommes. Jésus est celui qui nous a rassemblés, qui nous conduit, qui équipe son Église. L'Église n'appartient à personne, si ce n'est à Jésus seul, ni à un mouvement, ni à une personne. Il y a un autre point qui est fortement souligné dans ce passage, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a diversité. Il y a des juifs et des non-juifs, des esclaves et des libres qui ont leur place sans distinction. Aujourd'hui, on pourrait dire il y a des Français et des Américains, il y a des Africains et des Chinois, des Anglais et des Néerlandais, des ouvriers et des patrons, des étudiants et des retraités. N'est-ce pas? Il y a à peu près 45 ans, j'ai eu le privilège de passer quelques jours en Centrafrique. Et j'ai été une première fois profondément saisi de cette réalité de la diversité tout en étant un en Jésus-Christ. J'étais assis sur un tronc d'arbre, sous un toit en feuilles de bananier, et j'entendais chanter dans le cadre d'un culte célébré en Swahili. Je n'y comprenais rien. Mais j'ai réalisé que l'Église de Jésus-Christ, c'est aussi cela. Et ce matin, nous avons le privilège d'être là, ensemble, de plusieurs pays différents. Je ne vais pas commencer à faire compter. Mais nous ne nous connaissions pas, pour beaucoup d'entre nous, encore avant d'entrer dans cette salle. Nous avons ce privilège de savoir qu'en Jésus-Christ, nous sommes un. Quand nous avons placé notre foi dans le Seigneur, nous sommes un. Malgré notre diversité, malgré nos langues qui posent problème, malgré nos caractères qui posent problème. Il n'est donc pas question de dire « parce que je suis » et alors vous pouvez mettre le terme qui vous concerne, vous, « je n'ai pas ma place dans l'Église ». Ce n'est pas parce que je suis retraité depuis pas mal de temps maintenant que je n'ai pas ma place dans l'Église. Ce n'est pas parce que je suis étudiant que je n'ai pas ma place dans l'Église. Ce n'est pas parce que j'ai fait peu d'études que je n'ai pas ma place dans l'Église. Ce n'est pas parce que j'en ai fait beaucoup que je n'y ai plus ma place. L'Église de Jésus-Christ est diverse, diverse en culture, en statut social, en niveau d'études. Tu y as ta place. Chacun des chrétiens y a sa place. Il y a un autre point que ce chapitre 12 souligne, c'est que cette diversité est indispensable. Pourquoi? Parce que dans le corps, nous sommes interdépendants. Nous ne pouvons pas dire « je n'ai pas besoin d'un pied ». Nous ne pouvons pas dire « je n'ai pas besoin d'un œil ». Et ceux qui souffrent de faiblesse ou d'absence de vue, par exemple, ou qui sont estropiés, savent combien ils souffrent. Eh bien, à l'intérieur de l'Église, nous ne pouvons pas dire « je n'ai pas besoin ». Des autres, et les autres n'ont pas besoin de moi. Nous sommes interdépendants et non pas indépendants. Est-ce que nous comprenons que nous y avons tous notre place? Pourquoi? Parce que j'ai et parce que tu as besoin de ceux qui sont autour de toi dans l'Église. Pourquoi? Parce que les autres ont besoin de moi, de chacun de vous. L'autre, je ne peux pas m'en passer parce que Dieu a distribué des dons, il a distribué divers dons comme il l'entend et le don qui se manifeste dans le frère ou dans la sœur, j'en ai besoin moi-même pour être édifié, pour avancer, pour progresser dans ma foi. Dieu a donné divers dons, attribué divers ministères pour nous former, pour nous faire avancer dans la foi. Nous y sommes aussi pour pouvoir partager, et nous l'avons lu aussi, nos souffrances. Et pour ces souffrances, au travers de ces souffrances, nous avons besoin d'être épaulés, d'être aidés, d'être secourus, d'être entourés. Cela aussi, je l'ai expérimenté de différentes façons, très fortement. Nous avons réalisé que des dizaines de personnes priaient pour nous quand, il y a bien longtemps maintenant, nous avions notre garçon aîné chez nous qui était complètement dépendant dans sa chaise. Nous avons réalisé le jour de son enterrement que des dizaines de personnes priaient pour que nous tenions le coup, que nous puissions porter cette épreuve. Et encore aujourd'hui, vous savez, pour certains, les épreuves qui nous secouent. Est-ce que nous sommes conscients de cette dépendance? Est-ce que nous sommes prêts à aller dans le sens de vouloir dépendre les uns des autres? Est-ce que nous aspirons à voir ces réalités se manifester au milieu de nous, au milieu de notre Église ici, au milieu de l'Église dans laquelle vous êtes d'habitude? Et tout cela nous montre, et ça c'est un troisième point que je voulais souligner, c'est que nous avons encore besoin de progresser. Et il s'agit de progresser. Et nous allons pour cela lire dans Éphésiens 4 quelques versets, si tu veux les afficher. Et si vous voulez les lire quelques-uns. Qui veut lire?
Ça y est. À vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre paix. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout, agit à travers tous et habite en nous.
Encore.
Pendant chacun de nous, passe et donnez la mesure. Donc, celui qui a donné les uns en cause, d'autres pour faire, d'autres évangélistes et d'autres bergers. Il a fait former des femmes au temps du service, puis d'éducation du corps de l'humanité dans le corps, la connaissance, la maturité d'adulte, la mesure, la stature parfaite.
Merci, jusque-là. Et on aurait pu lire davantage encore. Il s'agit de progresser. Et c'est frappant que dans les textes que nous avons lus, il est d'abord dit au début, et c'est Paul qui dit, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. » L'unité est là. Pourtant, un peu plus loin, il dit, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Il y a une réalité qui est là. Nous sommes, parce que Jésus nous a appelés au salut, un, que nous ne le voulions pas. Mais cette unité, elle a besoin d'être cultivée et de se développer. Oui, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Mais il y a encore à faire. Jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. L'apôtre parle ici aussi pour dire que nous ne sommes pas arrivés. Il nous parle d'humilité. Il nous parle d'amabilité. Il nous parle de patience. Il nous parle de se supporter dans l'amour. Il nous demande de rechercher la paix entre nous. Qui n'a pas progressé dans ce domaine-là, à changer, à renoncer, à se repentir peut-être, à grandir dans la foi. quel programme ? Et je crois que c'est un réel combat pour chacun de nous, pour vous et pour moi. Alors, comment progresser ? Je ne vais pas développer longuement cela, parce qu'on pourrait être là encore quelques heures. Je voudrais simplement vous proposer quelques questions. Examinons-nous et regardons chacun où nous en sommes. Voilà des questions que nous pouvons nous poser. Est-ce que je suis reconnaissant au Père Céleste pour l'Église ? Y ai-je trouvé ma place ? Est-ce que j'ai accepté un service, une responsabilité ? Y suis-je à l'œuvre, en d'autres termes ? Où en suis-je dans mes relations avec les frères et sœurs ? Il y en a que j'aime et d'autres que je déteste. Ah pardon, pas ce qu'il fallait dire. Est-ce que je prends du temps pour les écouter et partager avec eux ? Est-ce que je cherche à les comprendre ? Est-ce que je les aime tous ? Est-ce que je sais reconnaître mes fautes ? Est-ce que je fais part de mes besoins ? L'apôtre Paul n'a pas hésité à écrire « Priez pour moi » afin que... Et il donne différentes raisons. Est-ce que je me retrouve, donc, avec mes frères et sœurs pour prier les uns pour les autres ? Quand je suis pressé, qui a priorité ? Dieu ou moi ? Mes pensées ou celles de Dieu ? Julie nous en a parlé ce matin, je ne savais pas qu'elle aborderait cette question-là. Nous avons besoin de nous confier, nous et toute notre Église et toutes nos Églises, au Seigneur Tout-Puissant. Il est fidèle, lui, et nous avons besoin d'avancer, alors avançons avec joie. En résumé, la vie d'Église n'est pas celle d'une foule d'individualistes. Non, elle est une vie riche de tous ceux qui sont attachés à Jésus, qui nous aime et nous conduira jusqu'au bout. Et chaque fois que nous hésitons, que nous nous posons des questions, j'aimerais que vous vous rappeliez et que nous nous rappelions cette prière que Jésus a faite le soir avant son arrestation. La fin de cette prière, c'est ceci. Ce n'est pas seulement pour eux, pour les apôtres, que je te prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Je ne sais pas si nous réalisons la profondeur de ces paroles. Qu'ils soient parfaitement un, comme toi et moi nous sommes un, qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Je ne peux dire que, Seigneur, merci. Viens à mon aide, viens à mon secours, viens à notre aide, viens à notre secours pour que nous puissions t'honorer, te ressembler et être ainsi tes témoins. Amen. Oui, merci Seigneur. Merci de tout cœur. Amen. Le Seigneur vous bénisse chacun. Je vous invite à poursuivre la réflexion en relisant le Nouveau Testament, en réfléchissant à ce qu'il en est dit concernant l'unité des enfants de Dieu.